Tony Aoun est notre troisième participant. Il est le directeur de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord de la chaire Raoul Dandurand au Canada. Il est également professeur émérite à l'Université de Sherbrooke au Québec. Sami Aoun, justement, je commence par vous. Dans les grandes lignes, qu'avez-vous retenu de cette tournée du président Biden? A-t-elle été fructueuse?
C'est une tournée qui est venue en retard. C'est une tournée de réinitialisation de la stratégie américaine après une longue période, à mon sens, de pivoter vers l'Asie selon la doctrine Obama, qui a montré ses échecs et ses limitations. Aussi, M. Biden lui-même a dû manger son chapeau sur les questions des droits de la personne, puisque au niveau de réalisme politique, dans les relations internationales, cette question ne devrait pas bloquer soit le leadership américain dans la région. À l'heure de la concurrence, à un moment où la Chine est avancée quand même assez substantiellement, et la Russie jouit d'un appui quand même au niveau soit la guerre en Ukraine ou sur d'autres plans. Alors, le retour américain est souhaité. Le bilan, apparemment, il est maigre pour l'instant, mais il y a des dynamiques qui ont été relâchées, très importantes à mon sens.
Bilan maigre. Élie Carmon, l'un des objectifs du périple était de réaffirmer l'influence des États-Unis au Moyen-Orient. À votre avis, cet objectif a-t-il été atteint?
Oui, je crois que maintenant, c'est clair à tous les acteurs régionaux et globaux que les États-Unis ont décidé de rester dans le Moyen-Orient et contrer l'influence grandissante de la Chine et de la Russie, et aussi contester la l'activité, si vous voulez, la politique agressive de l'Iran dans la région.
Emilio Viano, quelles étaient les attentes des Américains par rapport à ce voyage? L'ont-ils suivi avec intérêt et quelles ont été les réactions au retour du président Biden?
Il n'est pas fonctionné. C'était la raison principale de la visite de Biden au Moyen-Orient, d'avoir de l'essence pas très chère comme se passe maintenant ici aux États-Unis. Mais il n'y a pas aucune possibilité concrète de le faire, même si l'Arabie Saoudite veut le faire. Ils n'ont pas la possibilité technique de le faire très rapidement. Et maintenant, il y aura aussi la réunion de l'OPEC au commencement du mois d'août, et la Russie sera présente, et c'est clair qu'elle ne sera pas très sympathique aux nécessités de Biden et des États-Unis. Enfin, Biden a aussi été accusé d'avoir balayé les préoccupations relatives aux droits de l'homme en rencontrant, par exemple, en Arabie Saoudite, le prince héritier Mohammed Ben Salman, et aussi le président d'Égypte, Al-Sisi, qui sont bien connus pour ne pas respecter les droits de l'homme.
Alors justement, au premier jour de la tournée, le Parti républicain déclarait que le président Biden était au Moyen-Orient pour demander du pétrole aux Saoudiens, céder aux Iraniens et ne pas défendre Israël. Brièvement, quelle lecture faites-vous de ces critiques, Emilio Viano?
Je crois qu'au contraire, Israël a gagné beaucoup par la visite de Biden dans le sens de la d'approuver le gouvernement qui est maintenant dans le pays avant les élections, et aussi la célébration des accords très importants pour l'intégration d'Israël dans la région, le vol à l'Arabie Saoudite et l'accord sur les îles dans le Mar Rouge, et aussi le fait qu'en réalité les Palestiniens ont été complètement oubliés et ne pas parler même sérieusement de reprendre les négociations pour le fameux deux États, la solution de deux États. Ainsi que je pense que parmi tous les pays qui ont gagné, parce que beaucoup de pays ont gagné assez, moins les États-Unis, Israël a gagné beaucoup.
L'Arabie Saoudite était donc l'étape la plus attendue du périple en raison de la flambée des prix du pétrole que la Maison-Blanche attribue particulièrement à l'invasion russe de l'Ukraine. Mais samedi dernier, le prince Faisal Ben Farhan, le ministre saoudien des Affaires étrangères, a indiqué que le pétrole n'était pas vraiment au menu. Bref, qu'il n'y aura pas d'offre de la part du premier exportateur mondial de brut pour faire baisser le prix élevé du pétrole. Sami Aoun, comment expliquer cette absence d'engagement en matière de pétrole de l'Arabie Saoudite vis-à-vis de son allié américain?
À vrai dire, l'Arabie Saoudite s'est déjà engagée dans OPEC+, de respecter un peu les désirs et les ambitions de la Russie sur ce champ du pétrole. En ce sens encore, que les Saoudiens n'ont pas une autre arme de pression pour le moment. Et c'est en ce sens, peut-être, ils n'ont pas promis, peut-être à l'instant même, d'augmenter le flux de pétrole, prétendant qu'ils ont atteint un certain maximum. Mais derrière cette affaire, il y a aussi une manœuvre diplomatique, un chantage, si vous voulez, de la part des Saoudiens pour mettre fin à cette prétention américaine de mettre MBS, le prince héritier, comme paria. Et en ce sens, ils ont réussi quelque part cette épreuve de force en faveur de ce prince héritier. Et encore, il y a un point qui est assez majeur, qui a été peut-être discuté, c'est que la doctrine ou la vision de M. Biden sur ce choc, cette option entre les démocraties et les pouvoirs autoritaires aussi a eu quand même un certain déclin, puisqu'il est obligé, avec un bloc des autoritaires dans le monde arabe, surtout des puissances qui ont quand même bloqué la démocratisation dans cette région, de céder pour des raisons géopolitiques et pour des raisons de concurrence entre les grandes puissances. Et l'Arabie Saoudite a cette phase, si vous voulez, qui est autoritaire, mais en même temps, il y a une modernisation qui se fait en Arabie Saoudite, de la sorte que ce prince héritier a quand même une base populaire très en faveur de sa façon de faire.
Au chapitre des relations avec Israël, l'Arabie Saoudite avait fait part, quelques heures avant l'arrivée du président Biden, de l'ouverture de son espace aérien à tous les transporteurs, y compris israéliens. Mais à peine Air Force One a décollé de Jeddah, le chef de la diplomatie saoudienne a tempéré l'annonce de son pays en affirmant que ce n'est en aucun cas un prélude à une quelconque étape vers la normalisation des liens avec Israël. Elie Carmon, est-ce la déception du côté des Israéliens?
Je crois que les expectatives tant des dirigeants israéliens, mais surtout du public et des moyens de communication étaient très hautes. Parce que justement dans cette situation, quand le président Biden doit visiter l'Arabie Saoudite et rencontrer le prince héritier dans une situation, disons, personnelle et politique très tendue, il aurait été très difficile d'arriver à des résultats immédiats et exceptionnels. Personnellement, je suis beaucoup plus optimiste en ce qui concerne les résultats de cette visite. D'abord sur la question de la présence des États-Unis dans la région. Ensuite, en ce qui concerne Israël, la coordination de la stratégie ou de la coopération stratégique tant militaire comme politique dans la région et vis-à-vis des pays arabes sunnites modérés. Et même sur la question palestinienne, je crois que du fait que le président a déclaré ouvertement que la solution des deux États palestiniens et israéliens est sur la table, continue d'être la politique des États-Unis, ça a été très important, même si sur le plan matériel, on n'a pas donné, disons, suffisamment de support à l'autorité palestinienne. Et en ce qui concerne l'Arabie Saoudite, il faut attendre, je crois, plusieurs semaines, plusieurs mois pour voir si vraiment le prix du pétrole va descendre. Déjà, il y a une descente, je crois, et aussi sur le plan de l'alliance militaire, ça, à mon avis, ça a été une déception, mais on pourrait pas, on n'aurait pu pas, dans cette situation très très délicate, d'arriver à une alliance militaire stratégique ouverte, tant qu'il y a plusieurs acteurs, par exemple le Qatar, par exemple l'Oman et même l'Égypte, qui ne pouvaient pas arriver à une conclusion ouverte de cette alliance militaire anti-iranienne.
Oui. Chers invités, restez avec nous, car maintenant je vous propose deux des nombreux commentaires sur le sujet que nous avons tirés de la page Facebook de VOA Afrique. Raphaël Oumatoko, Kinshasa, RD Congo. Les résultats sont positifs avec la signature des accords économiques et sécuritaires. Les avancées significatives et notables sont en train d'être concrétisées. Et Yao Marcelin, Kofi, Abidjan, Côte d'Ivoire. L'embargo sur le pétrole russe et la fendée du prix du baril de pétrole sur le marché international d'une part, et son hostilité à la Chine, l'Iran et la Russie d'autre part, sont les raisons de cette tournée de Joe Biden au Moyen-Orient. J'espère que le prix du pétrole baissera car la situation est intenable en Afrique. Voilà pour ces deux commentaires. S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. La suite de Washington Forum, ce sera après cette courte pause. Merci.
En Tunisie, au Festival international de Carthage, avec la participation attendue de plusieurs grands artistes tels que Alpha Blondie. Nous verrons également comment une start-up entièrement composée de femmes a pour mission de briser le silence autour de la violence sexiste en Somalie. Nous parlons également de sport avec Yacouba Ouedraogo dans Sportissimo, notre leçon d'anglais dans Anglais Express avec Michel, et en exclusivité, ne ratez surtout pas l'interview de Roger avec le chanteur à Willow Longoba. Et comme d'habitude, nous chez vous, c'est vous et nous.
Restez de retour avec vous dans Washington Forum. Mille fois merci d'être toujours branché sur VOA Afrique, de même que sur nos chaînes partenaires. Nous remercions d'ailleurs nos chaînes partenaires. Nous braquons les projecteurs sur le récent déplacement du président Joe Biden au Moyen-Orient, son premier dans la région en tant que chef de l'exécutif américain. La semaine dernière, de mercredi à vendredi après-midi, l'occupant du bureau Oval a effectué une tournée en Israël et dans les territoires palestiniens avant de mettre le cap sur l'Arabie Saoudite. Un périple présidentiel que nous décortiquons avec nos trois invités, lesquels nous retrouvons d'emblée via Skype de la ville d'Herzliya en Israël, le professeur Eli Carmon, chercheur principal à l'Institut international de contre-terrorisme, de même qu'à l'Institut de politique et de stratégie, des instituts qui appartiennent au centre interdisciplinaire Herzliya. Autre participant, Sami Aoun, directeur de l'Observatoire sur le Moyen Orient et l'Afrique du Nord de la chaire Raoul Dandurand au Canada. Il est également professeur émérite à l'université Sherbrooke au Québec. Également en direct avec nous, le professeur Emilio Viano. Il enseigne les sciences politiques à l'American University de Washington. Alors, la rencontre du président Biden avec Mohamed Ben Salman, le prince héritier et dirigeant de facto de l'Arabie Saoudite, on en parlait brièvement tout à l'heure, a entraîné beaucoup de critiques. Le quotidien Washington Post a décrit leur salutation point contre point comme honteuse. Le prince a été désigné par les services de renseignement américains comme le commanditaire de l'assassinat en 2018 du journaliste critique saoudien Jamal Khashoggi, ce que Riyad dément. Pour des commentateurs, ce fist bump, comme on l'appelle, entre les deux hommes est un revers pour les droits humains. Partagez-vous cet avis, Emilio Viano?
Oui, il a été un grand problème pour Biden et dans un certain sens les États-Unis, parce que où il était, la majorité du temps, c'était des salles pleines d'autocrates non élus, de monarques absolus. Il était difficile de pousser au coude sur les droits de l'homme, particulièrement après avoir rencontré le prince héritier Mohammed bin Salman. Ça veut dire que on peut dire que la mission des États-Unis d'appuyer la démocratie, les droits de l'homme, le respect pour toutes les religions et la façon de vivre a été mise en arrière sur la nécessité de parler de pétrole. C'est une considération pragmatique. On peut le voir même en certain sens en Europe avec la Suède, la Finlande, et qui sont d'accord avec la Turquie pour l'extradition de rebelles kurdes qui sont en Suède.
Alors, en Israël et dans les territoires palestiniens, le président Biden a rencontré des dirigeants des deux côtés. Il a annoncé des aides financières aux Palestiniens et un projet pour déployer la 4G en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Sami Aoun, qu'a apporté ce voyage au niveau des pourparlers de paix israélo-palestiniens qui, pour rappel, sont au point mort depuis 2014?
Peut-être le président Biden a cautionné une trajectoire qui est déjà en branle, celle de la normalisation avec des pays arabes, notamment dans la région du Golfe, le Maroc, le Soudan, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, ouais. sans passer nécessairement par un respect soit de la représentation palestinienne, soit des instances palestiniennes, comme par exemple le président Mahmoud Abbas. Alors cette trajectoire est déjà en branle. Il y a plusieurs aspects pour ce point. De un, il y a une responsabilité des Palestiniens qui s'engouffrent dans leurs problèmes, surtout dans la région de Gaza, où le mouvement Hamas et d'autres mouvements islamistes payent allégeance à l'Iran, qui n'a aucun intérêt dans la solution des deux États. Oui. Et aussi la faiblesse de M. Abbas. L'autre part qui est importante, c'est vrai que M. Biden a déclaré, et c'est en son honneur, la solution des deux États comme pilier de la diplomatie américaine, mais il n'a pas ajouté des mécanismes d'exécution ou ce qu'on dit, une feuille de route. Et en ce sens, on voit avec l'Arabie Saoudite même, il y a une certaine ouverture stratégique militaire sur les îles de Tiran et Sanafir, où les Américains se sont retirés de la sorte aujourd'hui. Il y a une coopération non nécessairement affichée entre Israël et les Saoudiens. En oui. bref, la cause palestinienne reste symboliquement importante, mais dans les faits politiques, elle est de moins en moins importante.
Et pour rappel, le président Biden et le chef du gouvernement israélien Yair Lapid ont paraphé un pacte de sécurité engageant les États-Unis à ne jamais permettre à l'Iran, bête noire d'Israël, d'acquérir l'arme nucléaire. Les deux dirigeants ont toutefois affiché leur divergence sur l'approche à adopter. Le président Biden a dit privilégier la voie diplomatique. Yair Lapid, lui, n'a pas exclu le recours à la force contre Téhéran. Élie Carmont, pour les Israéliens, que signifient de telles divergences en cas d'accord avec l'Iran sur son programme nucléaire?
Je crois que cela a été le point de discorde le plus important, c'est-à-dire le président Biden a dit pour le moment au moins seulement la solution diplomatique, donc tenter d'arriver à un accord avec les Iraniens. Et le gouvernement israélien, celui de Lapid, qui est considéré un gouvernement transitoire, oui. mais encore beaucoup plus modéré que l'ancien gouvernement de M. Netanyahu, qui a dit « Nous pensons que l'Iran du régime fondamentaliste n'est pas intéressé à un accord et un accord qui ne soit pas qui ne prendra pas en compte les intérêts sécuritaires d'Israël ne pourra pas être accepté et en cas de nécessité Israël se prépare dans le futur pour une possibilité d'action militaire contre les installations nucléaires iraniennes. Je voudrais dire sur la question palestinienne que ce qu'a dit le président Biden, c'est vrai, on ne peut pas discuter à ce moment en Israël sur la question palestinienne quand il y a des élections au mois de novembre, le 1er novembre. Il y a deux partis importants qui sont complètement différents sur cette question. Et donc, on ne sait pas le résultat des élections et dans quelle direction ira le prochain gouvernement israélien, surtout sur les questions palestiniennes.
Sans plus tarder, deux autres commentaires à Facebook. Archiduc Théodore de Djamena, Tchad. Joe Biden est en train de régulariser les relations déstabilisées par son prédécesseur Donald Trump. Les États-Unis ont toujours besoin de pétrole pour leur développement et du respect des droits de l'homme en tant que gendarme du monde face aux pays comme la Chine, la Russie et l'Iran. Et Frégis Milandou, Congo-Brazzaville, Joe Biden a tourné le dos à l'Ukraine tout en assurant qu'il allait protéger le peuple ukrainien. Aujourd'hui, c'est au Moyen-Orient qu'il cherche la manne. Voilà pour l'avis de Frégis Milandou. Pour les Américains, il n'y a pas de soulagement quant au prix du pétrole malgré la tournée du président Biden au Moyen-Orient. Une escalade qui a notamment contribué à faire grimper l'inflation à 9,1% en juin dernier. Un record pour l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Un récent sondage indique que moins d'un tiers des Américains veulent que Joe Biden brigue un nouveau mandat en 2024. Mais Emilio Viano, en novembre prochain déjà, auront lieu les élections législatives, dites de mi-mandat. Les prix de l'énergie en seront-ils un enjeu d'après vous?
Ils seront beaucoup un enjeu pour les élections de novembre. Et même si les prix baissent sur des raisons indépendantes de sa volonté, le président Biden et les démocrates n'en tireront probablement pas beaucoup de crédit non plus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème de perception de sa façon de gouverner le pays. Et ce n'est pas seulement le pétrole, l'essence, c'est aussi l'inflation, la croissance des prix au supermarché, etc. Et la perception que l'économie des États-Unis ne marche pas dans la direction juste et que le président n'est pas capable et n'a pas la solution. Ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vraiment une vision réaliste de la réalité. Mais je crois que du point de vue politique et pour les élections de novembre, Biden aura des problèmes énormes et pourra même avoir de l'influence sur sa décision si se présenter une autre fois comme candidat à la présidence la prochaine fois.
Alors, rien que quelques jours après la tournée du président Biden, le chef de l'État iranien, Ebrahim Raisi, a accueilli à Téhéran mardi dernier ses homologues Recep Tayyip Erdogan de la Turquie et Vladimir Poutine de la Russie pour un sommet tripartite. Sami Aoun, quel est le message que ces pays ont voulu envoyer à l'Amérique ?
C'est-à-dire qu'ils sont présents ici, sur le Moyen-Orient. Il y a de plus en plus quand même une influence des pays régionaux au détriment parfois des grandes puissances. Mais sur ce sommet tripartite, c'est un échec presque, sauf sur la question de demander le retrait des Américains de la Syrie ou de l'Irak. Il n'y a pas vraiment un consensus et un accord sur ce point. Par exemple, M. Erdogan a insisté à continuer sa campagne contre les Kurdes, à titre d'exemple, et ce que les Américains bloquent, mais aussi les Iraniens le bloquent et les Russes. Alors sur ce point, créer un front anti-américain sur ce point, je ne crois pas qu'il est vraiment capable de livrer un message fort. Sauf qu'on reprend notre idée première, c'est que le fait que l'Occident fait la promotion des droits de la personne et ne se contente pas simplement de chercher des convergences des intérêts laisse un peu ces pays autoritaires plutôt en position de défiance contre l'Occident en général et contre les États-Unis. Par contre, la Chine qui n'est pas exigeante au niveau des droits de la personne, même la Russie, même d'autres puissances font quand même des avancées au détriment de cet Occident démocratique et libéral.
Eli Carmon, l'Iranien Ebrahim Raisi a été catégorique. D'après lui, le voyage du président Biden n'apportera pas la sécurité à Israël. Que faut-il comprendre par de tels propos rapidement, si vous pouvez?
Je crois qu'il n'y a pas un axe Iran, Russie et Turquie. Je crois d'abord que j'ai pas compris pourquoi le président Erdogan est allé là-bas, parce que ni la Russie ni l'Iran n'acceptent sa stratégie de lutter contre les Kurdes au nord de la Syrie. Et donc ça a été un échec. En ce qui concerne la Russie et l'Iran, surtout sur le plan économique, il y aura une coopération beaucoup plus étroite, ce qui est important pour les deux pays qui sont sous sanction. Par exemple, la Russie a promis d'investir 40 milliards de dollars dans l'industrie pétrolière iranienne. Et peut-être sur le plan militaire, si vraiment l'Iran passera des drones, des centaines de drones à la Russie pour lutter en Ukraine. Donc je crois que ça a été surtout un message politique.
Message politique, ce sera le mot de la fin. Et voilà, point final à ce Washington Forum. Grand merci à nos trois invités, les professeurs Eli Carmon, Sami Aoun et Emilio Viano. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous ce jeudi. Vous retrouverez mon ami et collègue Abdourahman Dia dès jeudi prochain. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. À bientôt sur les fonds de la VOA.